Écoute. Écoute.
Bonjour, mon invité aujourd'hui est Romuald Ciora, qui est chercheur associé à l'IRIS, essayiste, qui vit à New York depuis 15 ans, donc qui est un très bon observateur de la vie politique américaine. Et bien sûr, avec lui, nous allons parler des élections présidentielles à venir et des primaires en cours aux États-Unis. Romuald Ciora, bonjour.
Bonjour, Pascal.
Alors, certains disent que l'élection est pliée, que du fait des bons résultats économiques de Trump, dont il se targue lui-même, d'ailleurs peut-être à tort, il est probable qu'il soit réélu pour un deuxième mandat. Est-ce que les jeux vous paraissent faits à cette heure ?
Oui et non. Si rien ne se passe d'ici novembre, si l'économie semble toujours rayonnante aux États-Unis, s'il n'y a pas une crise internationale, s'il n'y a pas un scandale, et encore je ne sais pas quel scandale pourrait atteindre Trump aujourd'hui, je pense que Trump sera réélu. Il faut quand même se rappeler que les Américains ont toujours tendance à offrir un second mandat à chacun de leurs présidents. Pour ce qui est de George Bush père, tout le monde pensait 6 mois avant l'élection qu'il serait réélu. Ce n'est pas arrivé. Donc les jeux ne sont pas faits.
Mais et si deux, les deux présidents qui n'ont pas eu un deuxième mandat, Carter et George Bush, c'était en grande partie du fait de la crise économique lorsqu'ils sollicitaient un deuxième mandat.
Oui, et puis Carter, il y a eu aussi la crise des otages de Téhéran. Voilà. Et plusieurs... Carter, c'était quand même un petit peu différent. Les États-Unis étaient en plein dans une sorte de crise d'identité. Depuis l'assassinat de Kennedy, tout semblait tomber un peu, s'éparpiller dans tous les sens. Et Reagan paraissait pouvoir offrir une forme de stabilité. Donc il y avait aussi un rejet de la personne chez Carter. Tandis que George Bush père, oui, c'était économique. Donc si rien ne se passe, si rien ne bouge, et si Trump n'a pas face à lui un candidat qui puisse motiver les jeunes et les minorités, oui, il sera réélu.
Alors vous indiquez donc un candidat qui puisse motiver les jeunes et les minorités, c'est un peu le profil de Bernie Sanders, par rapport au débat de dire il faut plutôt un modéré pour attirer les voix du centre contre Trump. Vous semblez-vous penser que la carte finalement d'un candidat qui a des convictions très affichées, comme finalement Trump en 2016 par rapport à Hillary Clinton, est plutôt le bon choix pour le Parti démocrate?
Oui, c'est ce que je pense depuis le départ. Au début, je croyais qu'Elizabeth Warren aurait pu être cette candidate, car elle est très marquée à gauche, mais un peu plus positionnée.
Elle fait quand même establishment.
Voilà, un peu plus establishment que Bernie Sanders. Et puis il y a l'âge aussi. Bernie Sanders, 79 ans, il a eu un problème cardiaque important il y a quelques mois. Bien qu'à titre personnel, je soutienne Bernie Sanders, je pensais qu'Elizabeth aurait pu être une meilleure candidate. Non. Objectivement, aujourd'hui, au niveau des deux, là, les jeux sont faits. Et oui, pour répondre à votre question, seul un candidat anti-establishment, un candidat radical dans ses idées, peut aujourd'hui motiver une grande partie de l'électorat démocrate et également prendre des voix sur Trump. Il ne faut pas oublier que quelqu'un comme Bernie Sanders va motiver les latinos, les afro-américains, les jeunes, les minorités en général, et également peut reprendre des voix sur les classes populaires qui en grande partie ont voté Trump. N'oublions pas que...
Et qui ont déserté Hillary Clinton.
Bien évidemment, et qui ne voteront absolument pas pour Joe Biden, ou encore moins évidemment pour Michael Bloomberg. Donc oui, je pense que Bernie Sanders est le seul candidat qui puisse battre Trump, et je pense qu'il a, s'il gagne la primaire, je pense que oui, il a une chance sérieuse de battre Trump en novembre. Mais néanmoins, je resterai, à l'heure qu'il est, un peu prudent. Je le répète, s'il n'y a pas de nouveauté au niveau domestique, au niveau de la politique intérieure, la situation intérieure des États-Unis, je pense que même face à Bernie Sanders, Donald Trump sera réélu.
Alors Sanders semble bien parti pour les primaires, mais certains doutent qu'il puisse réellement gagner. On entend beaucoup de choses que l'appareil du Parti démocrate voudrait le priver de sa victoire, qu'il est vraiment trop éloigné. D'ailleurs, il n'est pas membre lui-même du Parti démocrate, et qu'en tous les cas, il est vraiment une figure un peu de gauchiste par rapport à l'appareil du Parti démocrate. Il n'a pas peur d'employer le mot de socialiste qui, il y a encore quelque temps, était un mot grossier, tabou aux États-Unis.
Il y a un petit scandale qui s'est passé hier aux États-Unis. Il a vanté le bilan au niveau de l'éducation de Castro, expliquant que lorsque Castro est arrivé au pouvoir, il a offert à une grande partie de la population qui était illettrée à Cuba la possibilité de suivre un enseignement gratuit.
Ce qui est vrai, mais qui n'est pas très habile.
C'était pas tellement subtil, hein, en sachant que sur Fox News, on nous dit que si Bernie Sanders est président, il y aura des exécutions publiques dans Central Park. C'était pas, voilà, c'était pas vanté. Castro n'est pas la meilleure chose. Donc il y a les démocrates de Miami qui évidemment sont en train de s'insurger, etc., etc. Aujourd'hui, non, les jeux ne sont pas faits et je ne pense que Biden a encore des chances. Les observateurs ont toujours un peu tendance à s'exciter sur les premiers caucus, les premières primaires. Il y a 4 ans, quand on savait très bien que Ted Cruz gagnerait l'Iowa, tout le monde a dit « Ah, c'est la fin de Trump !» Alors qu'on savait depuis des mois que, bref. Pour les 3 dernières dates, on savait que Bernie Sanders arriverait en tête. Il a néanmoins fait un score inférieur à ce qu'il avait fait il y a 4 ans. Il est vrai qu'il y a 4 ans, il n'y avait que Hillary Clinton face à lui. Mais néanmoins, il n'y a pas eu une dynamique de vote en Iowa très forte et une grande progression en ce qui concerne Bernie Sanders. On a toujours su que Joe Biden perdrait les 2 premiers caucus et la première primaire. Ce qui est vrai, c'est qu'on ne s'attendait pas qu'il perde le New Hampshire, so badly, comme on dit aux États-Unis, 17%, c'est un désastre. Donc bref, aujourd'hui, beaucoup de choses vont dépendre de samedi. Samedi, nous avons la Caroline du Sud. Mardi 3 mars, c'est le Super Tuesday avec 14 États, plus les démocrates de l'étranger et les Samoa américaines. Et au sein de ces 14 États, il y a la Californie avec 415 délégués et le Texas avec 228 délégués. Donc les prochains jours sont vraiment très importants. Si Joe Biden gagne samedi, ce qui semble probable aujourd'hui, courte marge avec Sanders, la dynamique sera toujours en faveur de Sanders. Et Sanders est donné favori en Californie et au Texas. Par contre, si Joe Biden a une nette victoire samedi en Caroline du Sud face à Sanders, 5, même 10 points, là, la dynamique peut un peu revenir en sa faveur. Et même si Sanders gagne la Californie et le Texas, la marge peut être mince entre les deux et s'installera alors un vrai duel jusqu'à la convention de juillet entre Joe Biden, qui représente l'établissement et le centre, et Bernie Sanders. Et comme vous l'avez dit, les démocrates, le Parti démocrate n'a jamais aussi bien porté son surnom que le Parti de l'âne, hein, depuis quelques années, c'était un désastre. Les démocrates, essentiellement Nancy Pelosi et le clan Clinton, qui domine toujours, hein, le parti, feront tout pour que Bernie Sanders n'ait pas l'investiture.
Feront tout, ils peuvent aller jusqu'à quoi? La triche
Non. Vous savez, c'est assez simple. Hein. Alors, je le répète, si Bernie Sanders triomphe samedi, s'il triomphe mardi, ça sera vraiment difficile. Si Biden est au plus bas, ce qui est le cas au niveau des sondages au niveau national, je pense qu'il aura l'investiture. Mais s'il y a toujours une possibilité, une marge relativement faible entre les deux, je pense que nous pouvons aller à une convention discuter, comme on dit.
C'est-à-dire Sanders, ça veut dire qu'on lui a un peu volé la victoire par rapport à Hillary Clinton en 2016.
Oui, tout à fait. Et c'est ce qui pourrait se passer à nouveau. C'est-à-dire que normalement, quand un candidat est largement en tête, même en tête, on se retire avant la convention pour que la convention se passe bien, etc. Ce que Bernie Sanders a fait il y a 4 ans. Il s'est retiré. Ça ne servait à rien d'aller dans une querelle qui aurait nui à Hillary Clinton. Là, ce qui pourrait se passer, je le répète, si Joe Biden n'est pas très éloigné au nombre de délégués de Bernie Sanders, c'est que Joe Biden ne se retire pas, qu'ils aillent donc tous deux à la convention, et comme il y aurait plusieurs centristes qui se présenteraient toujours derrière, sans aucune chance, mais cela permettrait qu'il n'y ait pas d'élection au premier tour de Bernie Sanders. Donc il y aurait un second tour, et à ce moment-là, tous les délégués qui ont été gagnés par un candidat, au second tour, peuvent voter pour un autre candidat que celui pour lequel ils ont été élus. Sachant que la plupart des délégués sont centristes, pro-Clinton et pro-Biden, Biden pourrait donc officiellement, et sans aucune triche, gagner l'investiture.
Donc on a deux profils différents, un profil classique, Biden, qui effectivement n'est pas très attractif pour les femmes et pour les jeunes et les classes populaires, et Sanders, c'est, imaginons une fois encore, un duel Sanders-Trump. Il n'y a jamais eu une telle opposition de deux candidats aussi radicalement différents de l'un de l'autre. On peut dire, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que le fossé entre Sanders et Trump est encore plus important que celui qui existait entre McGovern et Nixon en 72?
Ah oui, bien évidemment. Il y a quelque chose d'intéressant dans ce scénario et qui serait un petit peu en quelque sorte un piège tendu à Trump, c'est que Trump deviendrait le candidat de l'establishment. C'est-à-dire que Trump, comme vous le savez, se pose depuis son élection encore aujourd'hui comme l'anti-establishment, le populiste au sens noble du terme, l'ami du peuple, l'ami, etc., etc. Mais Bernie le fou, comme il le surnomme, est encore plus radical que lui quant à cela. Et donc Trump se verrait transformé en rempart l'établissement contre la vague castriste, communiste, marxiste, ce que vous voulez, qui serait en train de déferler sur les États-Unis. Donc, ça serait intéressant de voir comment Trump se défend. Et c'est peut-être ce qui pourrait le faire perdre.
Beaucoup disent justement, en prenant l'exemple de McGovern, qu'une fois encore, McGovern a perdu contre Nixon parce qu'il était trop radical, et on essaye un peu de McGoverniser Bernie Sanders.
Tout à fait. Et c'est assez facile, avec des déclarations comme celle qu'il a faite il y a quelques jours à propos de Castro, c'est assez facile.
Il est habitué de ce type de gaffe, une fois encore. Factuellement, il a raison. Il y a eu l'instruction publique obligatoire à Cuba, mais on sait très bien que faire l'apologie de Castro aux États-Unis n'est peut-être pas la meilleure façon de séduire l'électorat.
Bien évidemment, mais bon, c'est toujours pareil. On a pris une petite phrase dans son discours. Mmh. Il expliquait textuellement ce qu'il a dit. C'est « Je ne vois pas pourquoi nous, aux États-Unis, nous ne pourrions pas lutter contre l'illettrisme. Même un dictateur comme Castro, arrivé au pouvoir, a pu, etc., etc. » Voilà, on ne peut pas vraiment parler d'une gaffe en comparaison des gaffes de Joe Biden. Mais ce qui est un petit peu dommage, c'est que Trump s'est tellement banalisé. Il peut dire tout et n'importe quoi. Personne ne relèvera véritablement. Bernie Sanders dit un petit quelque chose. Ça fait la une même du New York Times.
À grands traits, quel est le programme de politique intérieure de Bernie Sanders? On sait qu'il est pour augmenter les impôts, de faire payer les riches, pour la gratuité des études, pour par rapport au système de santé, est-ce que vous pouvez évoquer à grands traits ces principaux points de programme national?
Ben, vous venez de le faire.
Bon.
La santé pour tous. Essentiellement, les points principaux.
Mais la santé pour tous, est-ce que l'Obamacare n'a pas été détruit? Donc ça existe déjà?
Oui, mais l'Obamacare, c'est une illusion. En Europe, en France, on se dit, l'Obamacare, c'est vrai, c'est mieux qu'avant. Mais l'Obamacare, c'est bien. Ça oblige tout le monde à avoir une assurance. Mais est-ce que vous savez combien moi je paye par mois d'assurance avec mon épouse? On a près de 2 000 $ d'assurance tous les mois. Et je suis loin de gagner des salaires mirobolants, comme vous en doutez. Donc c'est quand même très, 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 très cher. Donc si vous êtes pauvre, l'assurance vous est payée par le gouvernement. Si vous êtes dans les classes moyennes, inférieures ou au milieu, c'est quand même un coup, c'est quand même un coup énorme. Donc l'Obama Care, c'est quand même pas l'Eldorado.
Ce que propose Sanders par rapport à cela,
c'est un système à la française. Alors vous pourriez avoir toujours une assurance complémentaire ou ce que vous voulez, mais c'est pas assez. Mais il faut quand même être réaliste.
Si la santé est chère aux États-Unis, c'est le coût des assurances, c'est le coût des labos pharmaceutiques, c'est le coût. Donc comment lutter contre cela?
Comme je vous le disais, même si je soutiens Sanders, il ne faut pas rêver. Il ne pourra rien changer au cours intérieur. Il faut être lucide.
Carrément.
Carrément, à moins qu'il y ait une vague démocrate au Sénat et qu'il conserve la Chambre à l'élection de novembre, mais ça me paraît pas certain en ce qui concerne le Sénat. Et même s'il y a une vague démocrate, ce sera quand même une vague de démocrates très modérés. Donc, révolutionner le pays en créant un système de santé à la française me paraît totalement irréalisable en un mandat, en sachant qu'il y aura de fortes chances qu'il perde l'élection de mi-mandat, comme toujours.
Autre point important de son programme, c'est la gratuité des études. Mais expliquez-nous en quoi c'est compliqué à mettre en œuvre.
Ben, c'est également quasiment impossible à mettre en œuvre. Et on dirait que, enfin, je ne veux pas critiquer Bernie Sanders. Une fois de plus, ce serait la meilleure chose qui pourrait arriver aux États-Unis. Mais comment voulez-vous créer un système d'éducation totalement gratuit aux universités, un système universel, aux États-Unis, pardon, universel. Il faudrait, pour cela, puisque la plupart des grandes universités sont privées et très chères, il faudrait donc pour cela soit nationaliser Harvard et Columbia, voilà. Mais vous me direz, depuis qu'on nous parle d'exécution dans Central Park, peut-être que l'armée interviendra et que les présidents d'université seront fusillés, voilà. Mais, non, trêve de plaisanterie. C'est impossible. Donc, il faudrait, puisqu'on ne peut pas nationaliser les universités et qu'elles ne vont pas décider d'offrir l'enseignement à tout le monde, il faudrait que, dans ce cas-là, l'État fédéral, par exemple, prenne en charge les frais de scolarité des étudiants, ce qui est impossible. Alors, ce qu'il pourrait faire, et ce qui serait déjà très important, c'est rendre gratuit l'enseignement dans les universités d'État. Comme vous le savez, les universités publiques sont payantes, plusieurs milliers de dollars par an, ce qui est énorme. Donc ça serait déjà un pas. Donc je pense que c'est, si il était élu, c'est vers cela qu'il irait, une gratuité des universités d'État. Mais le pouvoir fédéral ne peut pas décider de tout. Ce sont les États qui décident.
Et donc aussi, il veut taxer les riches alors que Donald Trump, et ses prédécesseurs d'ailleurs, n'ont eu de cesse que de diminuer les impôts pour les grandes fortunes.
Ce qui a largement creusé le déficit. Trump s'est un petit peu imaginé un père divorcé qui prend ses enfants pendant quelques mois et qui, au lieu de payer le loyer, va leur acheter des jouets, des cadeaux, etc. Les enfants vont adorer le père, il va rien. Hein. Mais bon, au bout de quelques mois, tout le monde se retrouve dans la rue. J'exagère un peu, je simplifie, mais c'est un peu la politique de Trump. Taxer les riches, ça, c'est quelque chose qu'il peut faire, Bernie Sanders, parce que c'est au niveau fédéral, il peut passer au-delà du Congrès, donc ça, c'est une possibilité et ça serait une bonne chose. Ça n'ira pas très très loin, on demeure aux États-Unis et Bernie Sanders sera un président très isolé. Mais symboliquement, cela sera quelque chose et c'est faisable. Plus isolé, je reviens plus isolé que Trump ne l'aura été, même si au départ on pensait que Trump serait marginalisé et un peu isolé à la Maison Blanche, puisque les républicains ne l'aimaient pas trop. La différence, c'est que Trump est très autoritaire, Trump fait peur et que donc les républicains, même ceux qui détestaient, se sont transformés en carpette devant lui. Ça ne se passera pas avec Bernie Sanders.
On l'a vu avec la procédure de l'impeachment, où normalement les parlementaires doivent voter leur âme et conscience, et que c'était un vote partisan, et comme vous l'avez indiqué, les républicains qui méprisaient Trump le suivent de façon extrêmement disciplinée aujourd'hui.
C'est très inquiétant, c'est très très inquiétant. Effectivement, ce n'est pas si on prend comparaison à la France, que le parti majoritaire suive le président, c'est tout à fait normal. C'est un parti qui a été créé par celui-ci, qui a été élu pour confirmer l'élection d'Emmanuel Macron aux États-Unis. C'est très différent. l'intégralité des républicains qui sont aujourd'hui au Sénat, quasi l'intégralité au Congrès, enfin à la Chambre des représentants et au Sénat, étaient des totalement anti-Trump il y a encore 4 ans. Ils ont eu la possibilité, enfin, on savait hein, que Trump ne serait pas viré, mais ils ont eu la possibilité, 20 personnes, c'est pas grand-chose, hein, il en a manqué 19, de se débarrasser de Trump. Ils ne l'ont pas fait, dans un calcul d'immédiateté. Ah mince, si demain on vire Trump, il sera de façon, il va nous tweeter, etc., et on risque de perdre notre poste lors des élections de novembre, de sénateur, de congrès, etc. Donc, politique à court terme, et ils se sont pliés devant Trump, mais cela démontre qu'un Trump réélu aurait un pouvoir comme aucun président américain n'en a eu auparavant.
Alors, première chose, donc,
une influence plus qu'un pouvoir.
Une sorte de caudillo à la Maison-Blanche. On a vu aussi, lors de la présidence de Binchment, un parti démocrate assez diversifié en termes générationnels et en termes ethniques, et un parti républicain très largement blanc. Est-ce que, une fois encore, pour revenir à cette métaphore Trump-Sanders, qu'est-ce que vous inspire cette profonde division de l'Amérique, vous qui vivez depuis 15 ans, comment comprenez-vous cette évolution ?
Les États-Unis...
On parlait avant d'un consensus bipartisan, il n'est plus possible aujourd'hui.
Non, il n'est plus possible, mais d'abord, il y a la démocratie est en train de s'écrouler progressivement aux États-Unis. Tant est qu'on puisse parler de démocratie lorsqu'on a deux partis, un système bipartisan. Mais bon, aujourd'hui, à titre d'exemple, personne n'en parle aujourd'hui en France. Vous savez que la primaire concerne également les républicains, même si Trump se représente et même si évident qu'il sera le candidat républicain. Néanmoins, il y a eu 3 candidats face à lui. Et il y a toujours un candidat en liste, Bill Weld, qui n'a qu'un pour cent, même pas de un délégué, alors Trump en est déjà à 88. Mais peu importe, il y a quand même quelqu'un qui se présente contre lui. Le Parti républicain a annulé, je crois, je dis des chiffres un peu, mais 60 ou 70% des caucus et primaires. Il n'en demeure que quelques-unes. C'est ahurissant. Personne, que ce soit au New York Times, au Washington Post, personne ne relève cette atteinte à la démocratie. C'est un peu plutôt, enfin, dans le dos de la démocratie. Même si on sait que Trump gagnerait l'investiture, il y a une élection, il y a une élection. Après tout, qui peut prévoir ce que les électeurs feront dans le bureau de vote ? Donc oui, la démocratie est en berne aux États-Unis. Oui, il y a une fracture, des fractures de plus en plus profondes dans l'électorat américain et dans la société américaine entre les différentes classes sociales, entre les différentes communautés. Je pense que c'est irréconciliable. Même si Bernie Sanders est élu, cela changera la donne au niveau international, oui, mais au niveau domestique, au niveau de la politique intérieure, non. Je pense que les États-Unis sont sur une pente déclinante très raide.
Pour conclure, Romuald, vous parliez tout à l'heure d'un Donald Trump qui ferait des cadeaux dont le prix serait à payer plus tard. Selon vous, quel est l'état réel ? On parle toujours de la bonne santé économique des États-Unis. Quelles sont les failles économiques des États-Unis ?
Vous savez, titre d'exemple, on parle de l'employment, du chômage aux États-Unis qui est au plus bas. C'est vrai, mais de quel job parlons-nous ? On ne se rend pas véritablement compte en Europe. Les Français qui fréquentent des Américains qui ont des bons emplois, qui ont la sécu, qui ont... Mais l'Américain moyen, je ne parle même pas des couches populaires, l'Américain moyen a un travail parfois 8, 10, 12 heures par jour, sans congé payé bien évidemment, avec quoi, 3, 4 jours de vacances par an, et aucune sécurité de l'emploi. La plupart de ces millions de jobs qui ont été créés par, enfin, sous Trump sont des emplois poubelles, de véritables emplois poubelles, avec des femmes, des hommes qui travaillent, je ne plaisante pas, qui travaillent 8, 10, 12 heures par jour pour un salaire ridicule, avec évidemment l'angoisse d'être viré à la première opportunité. Ce qui se passera dès que un semblant de récession apparaîtra, vous allez voir comme le chômage va progresser à nouveau.
Merci Romuald Sciorra, vous préparez un livre qui va sortir à la rentrée.
Oui, Pauvre John, le cauchemar américain.
Bien, et ben on en reparlera à la rentrée 2020. Merci à vous.
Merci Pascal.